Vous écoutez France Inter, il est 18h. Bonsoir Fabienne Sintès.
Bonsoir Charline et les amis, à demain. Pour nous c'est parti, le 18-20 de France Inter est ouvert, installez-vous et soyez les bienvenus sur la planète et sa banlieue. Le 18-20, c'est d'abord ce que vous devez retenir de cette journée du lundi 30 mai avec le journal de Sébastien Legénie. Bonsoir Sébastien.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
Et l'essentiel commence ce soir avec une rédaction en deuil.
On a appris cet après-midi la mort d'un journaliste de BFM TV tué en Ukraine pendant un reportage dans le Donbass. Frédéric Leclerc-Imoff avait 32 ans, victime d'un éclat d'obus alors qu'il était dans un bus humanitaire avec des civils ukrainiens. On y revient dans un instant. Une fraude massive, ce sont les mots du ministre de l'Intérieur pour décrire l'origine du fiasco de samedi soir au Stade de France. Une fraude de billets organisée selon Gérald Darmanin. Pas question en revanche de remettre en question la gestion de l'ordre public par les policiers ce soir-là. Décryptage du service des sports dans un instant. À suivre également, le Premier ministre hongrois Viktor Orban, pas encore prêt à valider un embargo européen contre le pétrole russe. Un speed dating pour recruter des profs dans l'académie de Versailles et pour finir du tennis. Et la victoire d'un jeune Danois contre le grand Tsitsipas. Nous serons à Roland-Garros.
Et à 18h15, un jour dans le monde, à Taïwan, ce soir, grâce au livre de Valérie Niquet, Taïwan face à la Chine, vous verrez combien joue l'effet miroir avec l'Ukraine, combien l'invasion de Poutine fait réfléchir aussi Xi Jinping et pourquoi. À 19h20, c'est le téléphone sonne et le début de la campagne officielle des législatives. Le premier tour, c'est le 12 juin prochain, c'est dans 15 jours et vous nous direz ce que vous voyez venir, si vous y voyez plus clair, si vous savez où ira votre vote, parce que cette campagne a bien du mal à décoller. Probablement parce que côté La République En Marche, on n'a pas non plus dévoilé grand-chose encore. C'est difficile de trouver un sujet qui démarque vraiment et qui embarque aussi l'opinion. On en parle ensemble en tout cas au 01 45 24 7000.
France Inter.
La question donc de céder à l'autocritique. Les coupables sont les supporters anglais.
C'est en résumé les propos du ministre de l'Intérieur qui a pris la parole à l'issue d'une réunion interministérielle aujourd'hui pour tirer les leçons du chaos autour de la finale de la Ligue des Champions samedi soir au Stade de France. Si les choses se sont mal passées, si des supporters n'ont pas pu rentrer dans l'enceinte du stade, si des familles ont été victimes de gaz lacrymogène, c'est au départ parce que des dizaines de milliers de supporters de Liverpool sont venus à Saint-Denis avec de faux billets. On écoute les explications de Gérald Darmanin.
Ce qui a été constaté, c'est une fraude massive, industrielle et organisée de faux billets, puisque les préfiltrages évoqués par les stadiers, par le Stade de France et la Fédération française de football prévoient plus de 70% de faux billets à l'entrée du Stade de France. La présence massive de ces faux billets est effectivement le mal racine qui a causé les reports par trois fois du commencement du match.
Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, qui demande par ailleurs une enquête à l'UEFA sur cette fraude. Bonsoir Fanny Lechevestrier.
Bonsoir Sébastien.
On a donc bien compris pour la fraude. En revanche, le ministre reste très discret sur le reste, sur la gestion des flux, le traitement réservé aux supporters. Il n'y a eu aucun mea culpa.
Oui, si ce n'est ces mots du ministre de l'Intérieur qualifiant d'anormal tout de même le fait que des supporters munis de billets se soient retrouvés victimes des gaz lacrymogènes de policiers. Mais Gérald Darmanin l'a souligné à plusieurs reprises, ces mêmes forces de l'ordre et le préfet de police de Paris ont, par leur décision, empêcher qu'il y ait des morts. En revanche, aucune faute mise en exergue sur le flux et la réorientation des supporters pour accéder au stade. Là, les autorités ont pointé du doigt la grève sur le RERB qui a fait que des spectateurs se sont retrouvés plus nombreux que prévu à certains accès de l'enceinte sportive. La question de la formation des stadiers, sujet pourtant régulièrement mis sur le tapis, n'a pas du tout été abordée, tout comme celui d'une meilleure coordination entre les différents services. Quant à l'inquiétude sur l'organisation de la Coupe du Monde de rugby, prochain en France, puis des Jeux Olympiques. Pour le ministre de l'Intérieur, la comparaison est disproportionnée car selon lui, je cite, ces incidents ne se produisent que dans le football et avec certains clubs anglais.
Fanny Lechevestrier, l'affaire a pris également depuis hier une tournure politique au point que le Sénat a demandé à auditionner les ministres de l'Intérieur, Gérald Darmanin, et des Sports, Amélie Oudéa-Castéra. L'audition aura lieu mercredi. Affaire aussi diplomatique. Les explications du gouvernement français ne satisfont pas les autorités britannique, le 10 Downing Street, se dit extrêmement déçu de la façon dont les supporters ont été traités.
Sébastien, il avait 32 ans. Il couvrait la guerre en Ukraine pour BFM Télé.
Un journaliste français, reporter d'images, a donc été tué aujourd'hui dans le Donbass. Frédéric Leclerimov a été mortellement touché alors qu'il était à bord d'un bus humanitaire transportant des civils qui cherchaient à fuir les bombes russes sur Severodonetsk. Bonsoir Alexandra Hakoun.
Bonsoir.
Au sein de la rédaction de BFM TV, c'est évidemment un choc.
Un choc et une immense douleur. Voilà comment BFM TV a présenté, peu après 16h30, la mort de Frédéric Leclerimov, journaliste, reporter d'images, vous l'avez dit, décédé ce matin, alors qu'il accompagnait des civils à bord d'un bus humanitaire près de Lysychansk, dans la région de Severodonetsk. Il a reçu un éclat d'obus. Frédéric Leclerimov travaillait depuis plus de 6 ans pour la chaîne d'information. Immense émotion dans la voix de Marc-Olivier Fogiel, le directeur de la chaîne, venu quelques minutes plus tard s'adresser directement aux téléspectateurs.
C'était la deuxième fois que Frédéric partait en Ukraine, à sa demande. Je veux le préciser, non pas pour se dédouaner, bien au contraire, mais pour dire son engagement. Frédéric, ce qu'on peut vous dire, c'était pas une tête brûlée.
Il avait fait un stage commando de préparation aussi.
Absolument. Et ce soir, ce qui domine chez nous, c'est évidemment plus que la tristesse, le chagrin, mais aussi une forme de fierté.
Et Marc-Olivier Fogiel, de donner un peu plus de détails sur les circonstances qui ont précédé le drame. Frédéric Leclerimov était accompagné d'un autre journaliste de BFM TV, Maxime Grandsteder, et de leur fixeuse ukrainienne, Oksana Leuta. En bon professionnel, il s'était évidemment posé des questions avant de monter à bord du convoi humanitaire.
Oksana et Frédéric ont estimé que la mission était suffisamment sécurisée pour pouvoir y aller. Maxime, lui, avait plus de questions comme il aurait pu en avoir la veille ou le lendemain. Mais ensemble, ils se font confiance, ils travaillent en équipe. C'est aussi ça, une équipe de reportage. C'est des gens très soudés. Ils ont décidé d'y aller et voilà ce qui est arrivé ce matin en Ukraine.
Légèrement blessé à la jambe, Maxime Grandsteder et Oksana Leuta ont été rapatriés dans la ville de Dnipro en compagnie du corps de Frédéric Leclerimov.
Alexandra Hakoun, le ministère des Affaires étrangères demande ce soir une enquête transparente. Catherine Colonna était en Ukraine aujourd'hui, la patronne du Quai d'Orsay qui devait rencontrer Volodymyr Zelensky dans l'après-midi. Les Européens tentent de se mettre d'accord sur un nouveau paquet de sanctions contre la Russie. Conseil européen réuni depuis ce matin à Bruxelles. L'enjeu, c'est d'instaurer au plus vite un embargo sur le pétrole russe, sauf que la Hongrie n'en veut pas. Les 27 étaient prêts à faire des concessions à Viktor Orban, comme exclure temporairement de l'embargo les oléoducs vitaux pour l'économie de Budapest. Mais le Premier ministre hongrois a dit non. Les précisions d'Angélique Bouin, notre correspondante à Bruxelles.
Tout avait pourtant été tenté pour éviter d'afficher les divisions. Une réunion matinale entre ambassadeurs avait permis d'esquisser un compromis, mais à son arrivée, Viktor Orban a une nouvelle fois joué les troubles faits en s'en prenant à sa bête noire, la Commission.
Il n'y a pas d'accord du tout. Le problème, vous savez, c'est qu'on est dans une situation très difficile, fondamentalement en raison de l'attitude irresponsable de la Commission. L'énergie, c'est un problème sérieux, ce qui signifie qu'on doit trouver d'abord des solutions et après des sanctions.
Ne pas inclure dans cet embargo les livraisons par pipeline n'est cependant pas une mauvaise solution, a-t-il ajouté, en soufflant donc le chaud et le froid. Le préaccord de ce matin prévoit un embargo total sur les livraisons par bateau et un engagement de la Pologne et de l'Allemagne à ne plus se fournir par oléoduc, ce qui permettrait aux Européens de se priver de près de 90% des importations russes d'ici la fin de l'année. La Hongrie, la Slovaquie, la République tchèque bénéficieraient d'une dérogation dans le temps, assortie d'un soutien financier que semble donc vouloir âprement négocier Viktor Orban. Mais il ne faut pas non plus, à force de dérogation, créer des distorsions de concurrence, s'est inquiété de son côté le Premier ministre belge. Les discussions s'annoncent difficiles. Bruxelles, Angélique Bouin, France Inter.
Le sort de Patrick Balkany, suspendu à la justice à 73 ans, l'ancien maire de Levallois, condamné à 3 ans ferme pour fraude fiscale, était retourné en prison en février dernier pour ne pas avoir respecté son placement sous bracelet électronique. Cet après-midi, le juge d'application des peines avait décidé d'une libération conditionnelle, estimant le risque de récidive très faible, mais le parquet d'Evry a décidé finalement de faire appel. Y aura-t-il assez de profs à la rentrée prochaine dans l'académie de Versailles pour répondre à la crise des vocations? L'Académie a besoin de 2000 contractuels, tous métiers confondus, professeurs, infirmières scolaires, AESH. Bonsoir Yann Gallic.
Bonsoir.
Alors, pour recruter en urgence, le ministère de l'Éducation nationale organise toute cette semaine des speed dating.
400 candidats et candidates avaient rendez-vous aujourd'hui dans les locaux du rectorat de Versailles pour des entretiens d'une vingtaine de minutes avec des inspecteurs de l'Éducation nationale. Certains se sont présentés spontanément pour déposer leur dossier, comme Zahir, ingénieur en informatique. Il travaille chez un opticien, mais il aimerait changer de métier et devenir, pourquoi pas, professeur en lycée professionnel.
Là, je vais voir justement ce qu'il propose comme poste et voir les opportunités de recrutement. Voilà.
Et qu'est-ce qui vous attire dans l'éducation nationale ?
C'est vouloir partager ses connaissances et son expérience, et aussi, bien sûr, la stabilité de l'emploi.
Alors,
À 48 ans, Coralie aimerait elle aussi commencer une nouvelle vie après avoir vu les annonces de recrutement sur les réseaux sociaux. Cette mère au foyer a décidé de franchir le pas.
C'était comme un mur en fait, de se dire est-ce que je suis pas trop vieille, comment je vais faire, vu que j'ai pas eu d'expérience avant. Et maintenant que les enfants sont grands, que j'ai du temps et j'ai eu une licence de mathématiques, je me dis que pourquoi pas enseigner en classe. J'ai rencontré une inspectrice et puis un chef d'établissement, donc j'ai pu voilà échanger avec eux et puis ils nous ont dit qu'il fallait venir et que voilà, on avait des chances d'être pris.
Et la plupart des candidats qui étaient là ce matin sont en reconversion professionnelle ou en recherche d'emploi. Au total, le rectorat de Versailles va faire passer près de 1600 entretiens cette semaine pour des postes à pourvoir dès la rentrée prochaine.
Et Yann Gallic, c'était une inquiétude pour les consommateurs depuis l'instauration du bouclier tarifaire. Allait-il devoir payer plus cher l'électricité l'an prochain? Eh bien non, répondu Bruno Le Maire aujourd'hui. Il n'y aura pas de rattrapage sur les factures, selon le ministre de l'Économie, malgré un besoin de financement supplémentaire de 2 milliards d'euros. Des efforts, mais peut mieux faire. C'est en substance ce que dit le rapport de la Cour des comptes sur le soutien du ministère de la Culture au monde du spectacle vivant. Un document qui examine le financement du théâtre, de la danse, de la musique par la rue de Valois. Résultat, si depuis 60 ans, l'objectif affiché de rendre ces disciplines accessibles au plus grand nombre et que les moyens alloués sont très importants, eh bien les résultats, Cyril Ardot, sont en demi-teinte.
Oui, déjà, car selon l'endroit où l'on vit, on n'a pas la même offre. Plus de 350 lieux de création et de diffusion du spectacle vivant en Ile-de-France, contre à peine 49 en Bourgogne-Franche-Comté, par exemple. Malgré cela, la Cour des comptes salue les relations entre l'État et les collectivités locales qui sont, je cite, globalement bien structurées. Les financements proviennent d'ailleurs majoritairement de ces communes, de ces départements, de ces régions. Ça représente chaque année entre 2,5 et 4 milliards d'euros. Mais s'il y a en France plus d'un millier de troupes, des centaines de salles et de festivals, les créations ne circulent pas suffisamment. En 2019, un spectacle était joué en moyenne à peine plus de deux fois dans les scènes nationales. Et ce, à cause d'aides historiquement centrées sur le renouvellement de la création, dit ce rapport. Enfin, autre point soulevé, les données de ces salles et lieux de spectacle remontent mal au ministère de la Culture, ce qui rend difficile le pilotage de la politique en faveur du spectacle vivant. Mais un outil informatique en cours de déploiement devrait solutionner ce problème.
Et Cyril Ardot.
Allez, direction Roland-Garros pour terminer avec une nouvelle surprise de taille.
Bonsoir Fabrice Abgral.
Bonsoir.
La tête de série numéro 4, Tsefanos Tsitsipas, vient de chuter, Fabrice, face au tout jeune Danois, Holger Rune, 19 ans, c'est bien cela?
C'est un Danois, en effet, de 19 ans, classé 40e mondial. Il a créé, c'est vrai, la sensation en sortant le numéro 4 mondial, le grec Stefanos Tsitsipas, finaliste l'an passé. Une victoire en 4-7 d'Holger Rune. Alors, Holger Rune s'est fait connaître en 2019 en remportant Roland Garros Junior. Il vient d'empocher, il y a quelques semaines, son premier titre sur terre battue. C'était à Munich. Holger Rune dispute, écoutez bien, son troisième tournoi majeur, le premier à Roland Garros, où il a remporté donc ses 4 premiers matchs en Grand Chelem, puisqu'il avait été éliminé au premier tour à l'US Open l'an passé, battu par Novak Djokovic, et au premier tour à l'Open d'Australie cette année. Alors Holger Rune est un petit phénomène, un véritable phénomène même, puisque le Danois a encore un visage de gamin, une petite voix d'enfant, mais il pratique, alors je peux vous le dire, un tennis d'adulte, et quel tennis, tout en puissance, ça cogne dans tous les sens et sans retenue. Alors Holger Rune appartient à l'Académie Mouratoglou, qu'il a intégré à 13 ans en 2016, pour profiter en fait des infrastructures qui n'existent pas dans un pays pour un joueur qui veut devenir professionnel. Ce sera un quart de finale 100% scandinave, puisque Holger Rune jouera ce quart de finale contre le Norvégien, je vais y arriver, Casper Ruud, l'actuel 8e mondial. Lui, il s'est débarrassé du Polonais Hubert Hurkacz en 4-7. C'est la première fois que Casper Ruud atteint les quarts de finale en Grand Chelem.
Fabrice Abgral en direct de Roland-Garros. Et puis demain, un match très attendu, le blockbuster de la quinzaine, Djokovic-Nadal en quart de finale. Ce sera en soirée. Sachez que l'on pourra voir le match gratuitement sur Amazon Prime. Prime, décision exceptionnelle d'Amazon Prime.
Merci
pour les fans.
Merci beaucoup et tant mieux Sébastien Eugénie pour le journal. Bien sûr, à tout de suite. Dans Sous les radars, vous nous raconterez notamment l'histoire de la Reine Rouge du Japon. Ce soir, nous allons à Taïwan, essayer de mieux comprendre cette île que convoite la Chine et qui, au fond, a si peu de points communs avec la Chine. Et puis à 19h20, c'est à vous de jouer. C'est le téléphone sonne. Ce soir, on profite du début de la campagne officielle pour les législatives pour faire un petit peu le point à 15 jours du scrutin. Mais le point sur quoi? Elle parle de quoi, cette campagne? Bien sûr, vous voyez, j'imagine, vos candidats sur le marché. Mais avez-vous le sentiment que la campagne a commencé? Quel sujet accroche réellement avec La République En Marche qui a l'air de marcher à côté de sa campagne? Qu'on n'entend pas beaucoup d'ailleurs. On en parle ensemble de tout cela au 01 45 24 7000. Un œil sur le ciel, juste avant.
La météo avec Air France. Cet été, envolez-vous en toute sérénité vers plus de 1000 destinations. S'envoler en toute élégance. Air France. Rendez-vous sur airfrance.fr.
Et avec Élodie Calac de Météo France. Élodie, bonsoir. Un temps variable demain entre soleil et nuages.
Oui, bonsoir à tous. Alors, du Massif central vers le Jura, les Alpes, on aura plutôt plus de nuages dès le matin avec quelques averses possibles, voire un coup de tonnerre sur le nord des Alpes l'après-midi. Ailleurs, des nuages plus discrets. Le soleil fera de belles apparitions. Il dominera d'ailleurs largement des Pays de la Loire vers la Bourgogne, sur le sud de l'Aquitaine et de l'Occitanie, mais aussi en Méditerranée l'après-midi. Et puis au nord de la Seine, il faudra tout de même composer avec un petit risque d'averse. Et pareil, du côté des Pyrénées ou des Cévennes l'après-midi.
Et des températures en légère hausse.
Oui, alors encore fraîche tout de même au nord le matin, 5 à 11 degrés contre 9 à 19 au sud. Et puis l'après-midi, il fera 16 à 19 degrés près de la Manche, 20 à 24 sur le reste de la moitié nord et 22 à 28 degrés en allant vers le sud.
Et Élodie Calac de Météo France, merci beaucoup, à tout à l'heure après 19h.